Heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial d'International. Nous sommes en effet aujourd'hui à Tunis, à l'occasion de la remise du prix Nobel de la paix 2015 au Dialogue National Tunisien, ces organisations qui ont ensemble voulu sauver la concorde dans ce pays après la révolution qui s'est produite voici 4 ans. Et puis pour les rencontrer, nous avons aussi voulu retenir un lieu symbolique, le musée du Bardo tel que vous le voyez ici, bien sûr un très haut lieu de la culture tunisienne, mais aussi le théâtre de cet attentat terroriste qui avait tué, voici 6 mois, 22 personnes. C'est donc ici que je vous propose de suivre International. Voilà, je vous retrouve à présent à l'intérieur du musée du Bardo, l'ancien palais des Beys de Tunis, érigé voici près de 8 siècles. Ce grand musée, connu dans le monde entier depuis plus d'un siècle maintenant, est devant nous, ces représentants du Dialogue National Tunisien, prix Nobel de la paix 2015, que je tiens à remercier d'être avec nous. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Je vais vous présenter à nos auditeurs et téléspectateurs dans un instant. Beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibo de RFI et Charlotte Bozonnet du Monde. Avant cela, remontons le temps, si vous le voulez bien. C'est il y a près de 5 ans avec cette immolation de ce jeune Tunisien qui allait donner en quelque sorte le coup d'envoi de la révolution et précipiter la chute de Ben Ali.
C'est l'histoire d'une révolution qui aurait pu mal tourner. Juillet 2013, 2 ans après la chute du régime Ben Ali, la rue gronde à nouveau en Tunisie. Le député Mohamed Brahmi vient d'être tué. Comme Chokri Belaïd, assassiné en février, c'était un farouche opposant au gouvernement dirigé par les islamistes d'Ennahda. Par dizaines de milliers, ces manifestants réclament la destitution du pouvoir en place. Une nouvelle fois, le pays est promis au chaos. Mais un groupe d'hommes et de femmes refuse la fatalité. Membres de la Ligue des droits de l'homme, de l'Ordre des avocats, du syndicat UGTT ou du syndicat des patrons, ils s'improvisent médiateurs entre les différents partis, lancent un dialogue national et arrivent à imposer une feuille de route.
Maintenant, le train de la sortie de crise a été mis sur les voies. Il arrivera en gare dans quelques mois, avec des élections transparentes qui aboutiront à la première démocratie du monde arabe.
Le gouvernement d'Ali Larayed démissionne et laisse la place à un cabinet indépendant dirigé par Mehdi Djoma jusqu'à l'élection au suffrage universel de Beji Caïd Essebsi en décembre dernier.
C'est le début de l'avenir. J'espère que nous serons tous ensemble.
Le quartet a sauvé la transition démocratique, mais surtout, en imposant le dialogue, il a mis fin à la violence politique et permis le retour à une certaine paix sociale. Comparé aux voisins égyptiens et libyens, en proie à la répression ou à la guerre civile, la Tunisie est sans conteste le pays du printemps arabe qui s'en sort le mieux. Mais des obstacles subsistent, à commencer par la menace islamiste ravivée par les attentats du Bardo en mars et ceux de Sousse en juin. La nouvelle loi antiterroriste adoptée en réaction inquiète les défenseurs des droits de l'homme. Et au niveau politique, l'assemblage Nida Tounes et Narda s'essouffle. Des voix s'élèvent pour critiquer l'immobilisme d'un pouvoir condamné au compromis. Elles réclament un gouvernement 100% politique, plus énergique. Comme si au moment même où il était célébré par l'obtention de ce prix Nobel de la paix, le mode de gouvernance prôné par le quartet commençait à montrer ses limites.
Voici pour ce rappel des faits, on le voit, il s'est passé beaucoup de choses en 5 années ici en Tunisie et sans doute aussi grâce à vous, ce pays a évité le pire. Alors je vais vous présenter nos invités. Tout d'abord, Mokhtar Trifi, vous êtes entre autres président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, vous avez donc contribué à ce dialogue. À vos côtés se trouve Monia El Abed, qui représente ici l'Ordre des avocats, également un acteur tout à fait déterminant de ce dialogue. On retrouve Mouldi Djenboudi, qui représente secrétaire général adjoint de l'UGTT, c'est-à-dire l'Union Générale donc des Travailleurs de Tunisie. Et puis à vos côtés, c'est une belle image aussi, prix Nobel dans ce prix Nobel, pourrait-on dire, puisqu'à vos côtés se trouve le représentant du patronat, Hichem El Oumi, Union Tunisienne pour l'Industrie, le Commerce et l'Artisanat, autant dire l'Utica. Alors nous sommes très heureux avec mes collègues Sophie Malibo et Charlotte Bozonnet de vous retrouver. Une qu'une question. À Paris, on a vu beaucoup de choses. Un accueil, vous avez été reçu par le président de la République, François Hollande, Institut du Monde Arabe, mairie de Paris. On a presque l'impression qu'ici, il ne s'est rien passé. Et que même lorsqu'on discute dans la rue, un certain nombre de Tunisiens ne savent même pas que vous avez le prix Nobel. Qu'est-ce que vous en pensez, Mokhtar Trifi ?
Justement, moi je trouve que les réceptions qui ont été faites à Paris auraient dû se faire à Tunis. C'est-à-dire que nous, Tunisiennes et Tunisiens, nous avons besoin de fêter un événement mondial,
oui.
Un événement extrêmement positif pour la Tunisie, pour l'image de la Tunisie. J'aurais bien voulu que toutes les autorités tunisiennes se mettent en place pour recevoir les représentants du quartet, pour fêter avec les Tunisiennes et les Tunisiens ce prix. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais nous espérons toujours que ça se fasse dans les prochains jours.
Sophie Malibo.
L'occasion, au moment où vous irez chercher le prix, parce que finalement, il faut attendre le 10 décembre pour que vous ayez en main ce prix. Est-ce que vous imaginez qu'à cette occasion-là, peut-être quelque chose sera fait plus spécifiquement en Tunisie ?
On espère. D'abord.
Parce que là, il y avait l'effet de surprise.
Ça va se faire, à mon avis, avant le 10 décembre. C'est un peu loin, le 10 décembre. On a besoin de fêter ça immédiatement.
Même question à mettre à la bête. Vous êtes aussi surpris par cette relative discrétion ici ?
Justement, j'allais dire que c'est l'effet de surprise. Hein. C'est évident que nous, en tant qu'ordre des avocats, on a appris le jour même. Donc, c'est un effet de surprise. C'est ce qui explique qu'il n'y avait pas réellement eu de mobilisation autour de cet événement, qui reste un événement historique pour nous. Et je pense que c'était la grande surprise qui a couronné, justement, 4 ans de labeur, 4 ans de lutte du peuple tunisien. Et à l'occasion, je voudrais féliciter le peuple tunisien
qui nous a
permis justement d'être, parce que si nous sommes ici, nous sommes le porte-parole d'un peuple qui était en quête de liberté, en quête de démocratie et en quête de pluralité.
Et vous rendez également hommage aux femmes tunisiennes.
Justement, les femmes tunisiennes étaient présentes depuis le 14 janvier et bien avant le 14 janvier. Donc, et surtout les femmes tunisiennes qui ont été porteuses, surtout de dialogue. Hein. Il faut aussi le mentionner, parce que les femmes ont été toujours contre la violence et contre la culture de la non-violence. Donc les femmes tunisiennes sont présentes aujourd'hui. Elles ont contribué de manière intense et de manière importante et efficace pour la réussite de ce dialogue.
On leur rend hommage. Charlotte Bozonnet, Le Monde, qui y connaît bien, vous étiez ici pour Le Monde lorsque Ben Ali, vous connaissiez, en tout cas vous faites beaucoup de reportages ici.
Une question, peut-être que si les Tunisiens n'ont pas forcément réagi, c'est qu'il y a une forme de déception. Au-delà du symbole, à quoi va servir ce prix Nobel pour la Tunisie ?
Alors, oui, moi je pense que c'est d'abord une distinction d'envergure mondiale pour la Tunisie. Le choc était important, mais positif. Peut-être que les Tunisiens étaient trop habitués à des choses négatives. D'ailleurs, la veille de cette très bonne nouvelle, il y a eu une tentative d'assassinat d'un député de l'Assemblée des représentants du peuple. Donc on était en plein dans le négatif. Et là, c'était le choc. Et je pense, ce qu'il faut et ce qui est important, d'abord, fêter l'événement en Tunisie.
Bien
c'est
sûr.
Vrai que les Tunisiens étaient très déçus que ce qui s'est passé à l'Élysée ne s'était pas passé à Carthage. Donc ça, je crois qu'il faut le faire au plus vite. Le président de l'Assemblée des représentants du peuple, l'Assemblée nationale tunisienne, a annoncé le jour même de l'annonce donc, du Nobel qui a été accordé au quartet et donc à la Tunisie, qu'il y aurait un événement pour fêter ce prix Nobel. Et ce qui est important, c'est cette fenêtre qui s'ouvre à la Tunisie à travers ce prix Nobel, qui est quand même un événement mondial très important. Il faut que les Tunisiens saisissent cette opportunité pour essayer de communiquer le plus, parce que là, on nous donne plein de possibilités de communiquer, et c'est important de saisir cette opportunité pour reconstruire l'image de la Tunisie qui malheureusement a été affectée par les événements notamment de terrorisme au Bardo ici même et à Sousse. Donc c'est une opportunité pour nous Tunisiens.
Mouldi Djendouli, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs de Tunisie. Même chose, il y a eu une adhésion syndicale avec les patrons, avec les avocats, avec l'Union des Droits de l'Homme. Ça n'a pas été complexe de jouer le jeu avec des gens, vous êtes côte à côte aujourd'hui, mais avec qui vous, j'allais dire, vous vous engueulez aussi de temps en temps dans les négociations sociales.
Oui. De toute manière, c'est vrai, pour le même effet de surprise, nous étions, autant que j'ai été surpris par cette bonne nouvelle. Naturellement, dès qu'on a eu l'information, on a constitué une petite équipe pour fêter vraiment cette bonne surprise. Et en attendant de se réunir avec le quartet pour mieux faire une des festivités pour ça. Pour la question de comment on se trouve avec l'UTICA, parfois
avec les patrons,
on ne doit pas oublier que même pour la lutte contre le colonialisme, l'indépendance de la Tunisie, nous étions à côté aussi, l'UGTT et l'UTICA, pour le combat de l'indépendance.
Ce qui vous rassemble est plus fort que ce qui, en négociation, peut vous séparer.
Effectivement, la Tunisie,
c'est
l'intérêt de notre pays, mais pour les négociations et pour tout ça, c'est un autre paire de manches.
Votre initiative, finalement, elle date de 2013. Est-ce que, dorénavant, le fait d'avoir reçu ce prix, ça vous oblige à l'avenir vis-à-vis de l'extérieur et de l'intérieur?
Je pense que c'est une responsabilité. C'est un prix Nobel de la paix. Donc nous devons nous unir, nous concerter, montrer que nous sommes dans la concorde et qu'on passe à la deuxième étape. Là, on a réussi la transition politique. Maintenant, nous devons réussir la transition économique et sociale. Mmh. Et c'est le grand défi de la Tunisie. Reprendre les chemins de la croissance, créer des emplois, développer nos régions. Parce que la révolution, une des raisons de la révolution, c'était la dignité, la liberté, mais également le travail et le développement des régions.
Ça, effectivement, on parlera des données économiques, de la croissance qui est un peu en panne dans un moment dans l'émission. Ce qu'on voudrait peut-être aussi vous demander, deux avocats face à nous, pourquoi est-ce que ce qui a marché en Tunisie ne marche pas du tout ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres civiles? Pourquoi est-ce qu'il y a des attentats, des migrations dramatiques qui s'opèrent? Et pourquoi est-ce que ce miracle ici en Tunisie, pourquoi est-ce que ce miracle n'est pas exportable?
En fait, je pense que ce n'est pas un miracle, c'est un processus. Moi, j'y crois que les Tunisiens ont toujours cru dans le dialogue, c'est-à-dire que les forces vives, du moins, les forces vives démocratiques du pays ont toujours été dans cette approche-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les négociations, le dialogue, le débat a été amorcé bien avant 2013, c'est-à-dire qu'il y avait des prémices, il y avait ceux qui nous ont précédés, il ne faut pas l'oublier aussi, il me semble, dans l'accumulation. Ça aussi, c'est très important pour nous. Donc, nous sommes aussi aujourd'hui présents tous les quatre, mais il faudrait revoir un peu l'historique de ce quartet, c'est-à-dire qu'il a commencé bien avant nous. Donc c'est une culture de dialogue, je crois, qui était importante pour la société civile. Et je voudrais juste revenir par rapport à votre question que je trouve très pertinente. À quoi ça va nous servir aujourd'hui un prix Nobel de la paix, alors que la Tunisie est encore dans un cheminement important et dans l'instabilité aussi. Il faut le reconnaître, parce que pour avancer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans une instabilité, mais le fait d'avoir cette consécration de la communauté internationale, je crois que ça nous a donné un rebondissement. C'est-à-dire, pour nous, en tous les cas, société civile, pour nous, en tant qu'institutions qui se sont impliquées dans ce dialogue, que j'estime que nous avons réussi relativement, mais que le chemin est encore lent, que le chemin est encore difficile, qu'il faudrait être vigilant, c'est symbolique. Je trouve que cette symbolique est très importante parce que ça nous a redonné un nouveau souffle, ça nous a donné une bouffée d'espoir pour l'avenir, pour justement la construction de la Tunisie qui en a aujourd'hui plus que besoin d'aide, d'abord d'une solidarité internationale, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte internationale. C'est-à-dire que, et pour revenir un peu à ce qu'on a toujours appelé, l'Europe a toujours appelé le printemps arabe, moi je voudrais dire que c'est l'exception arabe. C'est ce qui explique justement pourquoi En Libye, c'est pas la même chose. Pourquoi ? En Syrie, c'est pas la même chose. Parce que nous, Tunisiens, nous avons toujours été pour les négociations, nous avons été toujours pour le débat et pour l'ouverture.
La Libye, en ce moment même, ils sont vraiment en train de se débattre dans une situation vraiment chaotique. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence, ce regard porté sur vous en ce moment, sur le dialogue en Libye ? Est-ce qu'il y a des ponts ? Est-ce qu'il y a des contacts ?
Mokhtar Trefi ?
D'abord, je voudrais compléter ce que disait Maître Al-Abed tout à l'instant même. Il faut se rappeler qu'en Tunisie, nous avons une société civile bien ancrée, bien structurée, et qui a résisté tout le long du règne de Ben Ali.
Même avant,
les organisations qui sont devant vous, elles ne sont pas nées de la dernière pluie, comme on dit. Ce qui a favorisé ce dialogue, c'est cette société civile importante. Ce qui a favorisé ce dialogue, c'est aussi, pour reprendre avec à votre question, c'est aussi le mouvement des femmes. N'oubliez pas que depuis 1956, quelques mois après l'indépendance, le code du statut personnel est venu pour libérer la femme tunisienne. Donc, il y a une société civile, il y a une société qui s'est créée indépendamment du pouvoir, de tous les pouvoirs qui sont installés. Donc, c'est important. Aujourd'hui, pour nous, tout ça est important. Pour la Libye, pour votre question sur la Libye, nous espérons que nos amis libyens arrivent à trouver le consensus. Mais malheureusement, la situation n'est pas exactement celle de la Tunisie, avec les milices armées qui sévissent partout, malgré le dialogue qui se fait. Nous espérons que les politiques libyens puissent maîtriser la situation, parce que c'est aussi dans notre intérêt, comme Tunisiens.
Bien sûr.
Nous sommes enterrés d'une ceinture d'explosifs, comme vous voyez, surtout du côté de la Libye. Donc nous espérons bien que le dialogue puisse réussir.
Charles Bozonnet, Le Monde.
Peut-être.
Pardon.
Allez-y. Peut-être j'ajoute quelque chose pour la situation de la Libye. C'est un peu différent, parce que le meneur de ce dialogue national, c'est la société civile ici. Mais en Libye, c'est ceux qui font la politique, de toute façon, les politiques.
Donc,
c'est les Nations Unies. Mais ici, c'est en chair et en os, les Tunisiens, les sociétés civiles tunisiennes. Peut-être, je pense que c'est un peu différent.
Vous voulez dire qu'ailleurs, les politiques ont trop de poids au Proche-Orient ou dans d'autres pays, il n'y a pas une société civile qui impose sa paix. C'est ça que vous nous dites.
J'espère.
D'une certaine façon.
Si, à contrario, est-ce que le gouvernement aussi n'est pas empreint d'une certaine faiblesse, justement, dans, vous parliez tout à l'heure des conditions de la deuxième étape qu'il va falloir aborder, et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, les Tunisiens de tous les jours n'ont pas senti vraiment le changement. Est-ce qu'il n'y a pas un côté composite aussi, l'envers de la médaille, qui fait que finalement, il n'y a rien de vraiment tranchant, il n'y a pas une vision politique forcément évidente?
Je pense que la froideur de la réaction de certains Tunisiens par rapport à ce Nobel vient de la morosité que vit le Tunisien. Il y a un chômage très très important, surtout un chômage de jeunes diplômés, donc il y a une frustration très très forte. Il y a une croissance qui est proche de zéro.
Je vous interromps pour vous dire que nous avons pris les taxis, discuté avec des Tunisiens. Certains nous disent même, au fond c'était mieux avant sous Ben Ali, la vie était moins chère.
L'inflation s'est améliorée, hein. Le taux d'inflation a baissé. Le gouvernement actuel a un point sur lequel il a été efficace.
Mais il y a une déception.
De réduire, parce qu'on était parti sur 6% d'inflation, et là on est proche de 4%. Donc il y a au niveau de l'inflation une amélioration, mais il y a quand même un problème réel de pouvoir d'achat, et il y a une crise au niveau, comme je l'ai dit, de la jeunesse, hein, qui sort des écoles. Il y a dans les plus de 200 000 chômeurs diplômés.
Et
plus de 15% de taux de chômage en général, hein, atteignant 30% pour les jeunes. Donc là c'est un vrai malaise. Hein. Et avec les problématiques de terrorisme que nous avons vécu, donc il y a une chute du tourisme et derrière tout un secteur. Donc c'est 400 000 personnes qui travaillent dans le tourisme, 600 000 autres dans les secteurs rattachés au tourisme. Il y a également les investisseurs qui ne sont pas au rendez-vous, les investissements étrangers dont nous avons besoin. Et donc ceci est lié à ce malaise auprès des Tunisiens. Et le Nobel vient vraiment au bon moment pour nous ouvrir une fenêtre d'espoir
que nous devons saisir avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de responsabilité. Donc, nous attendons de nos partenaires étrangers qui nous soutiennent, mais nous devons, nous, assumer notre responsabilité.
Retour dans l'international, nous sommes toujours à Tunis, au musée du Bardo, avec le dialogue national tunisien, le quartet qui vient d'obtenir le prix Nobel de la paix 2015. Nous sommes heureux de vous retrouver. On vient de voir dans l'actualité toujours une situation très heurtée, par exemple en Syrie avec l'interrogation sur l'avancée de Daesh. Première question de Charlotte Bozonnet.
Selon les Nations Unies, il y a à peu près 5500 Tunisiens qui sont partis faire le djihad en Irak, en Syrie ou en Libye. Qu'est-ce qui a raté dans cette révolution pour qu'une partie des jeunes pensent que c'est là-bas que se joue leur avenir? Monsieur Trifi, peut-être?
Mokhtar Trifi.
Oui, tout d'abord, il faut rappeler que le départ de Tunisiens vers les foyers de tension n'est pas venu avec la révolution. Même avant, il y avait pas mal de Tunisiens qui étaient en Afghanistan, qui étaient en Irak, qui étaient un peu partout là où il y avait des problèmes. Et ça continue. Le problème, c'est pas, on peut pas dire que c'est un ratage, mais c'est une radicalisation qui s'est vue progresser pendant les premières années de la révolution, surtout avec le gouvernement du de la Troïka. En plus, un certain nombre, même de responsables politiques de l'époque, organisaient et encourageaient des jeunes à aller combattre dans les foyers de tension, faire le djihad, puisque pour certains d'entre eux, c'était un devoir religieux. Ça, c'est important. Le deuxième élément important, c'est la situation sociale qui est prévalue tout le long du règne de Ben Ali, qui continue malheureusement à prévaloir dans certaines régions. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas d'espoir. Ou bien ils vont dans le djihad, ou bien ils se jettent à la mer pour aller en Europe. Vous voyez, par exemple, tout le monde se rappelle que tout juste après la révolution, plusieurs milliers de Tunisiens sont partis pour Lampedusa et pour l'Italie. C'est pratiquement le même phénomène. C'est-à-dire la marginalisation sociale, la précarité de régions tout entières, tout ça, ça a favorisé ce truc-là. Et puis, dans la région entière, il y a une radicalisation religieuse qu'on remarque à partir du Yémen, de Syrie, l'Irak, au Maghreb, en Libye et tout ça.
Pour s'attarder un instant sur la situation des jeunes, je souhaiterais vous interroger, M. Djendoubi, du syndicat des travailleurs, justement. Comment vous expliquez ce problème de déshérence des jeunes et du manque d'emploi, notamment chez les diplômés aussi? Est-ce que, et peut-être vous aurez peut-être un petit débat entre vous, les employeurs, pourquoi on n'embauche pas en Tunisie? Quel est le problème de l'emploi? C'est l'administration qui bloque, qui est trop lourde, ou ce sont les employeurs qui sont trop... quelle est la source du problème selon vous?
Bon, je crois qu'il y a un problème de confiance au niveau des investisseurs, notamment étrangers, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu aussi des problématiques de différentes sortes depuis la Révolution qui ont fait que des extensions d'activités à caractère économique n'ont pas été réalisées, que certains investisseurs se sont détournés de la Tunisie pour aller dans des pays comme le Maroc ou l'Europe de l'Est. Il y a également une contraction. Aujourd'hui, on constate une contraction du marché local à cause de la baisse du tourisme, donc du flux de touristes.
Le tourisme est réellement en panne. On le voit ici dans ce beau musée qui a été frappé au cœur. On rappelle l'attentat 22 morts. Il y a beaucoup moins de touristes actuellement dans votre pays. Donc l'industrie touristique, qui était primordiale, est en panne.
Voilà. Donc dans tous les secteurs qui travaillent pour le tourisme, notamment le secteur agroalimentaire, le secteur du transport, certains services, l'artisanat, par exemple, est un secteur qui est employeur. Plus de 300-400 000 personnes travaillent dans ce secteur-là. Oui. Donc tout ceci fait qu'il y a ce problème de manque de création d'emplois. Et les entreprises ne peuvent pas créer d'emplois si elles n'ont pas de marché derrière. Si nous avons, et moi je représente bien sûr les entreprises privées, si nous avons une baisse d'activité, une perte de confiance dans nos clients par exemple, qui ne veulent plus venir pour négocier les marchés. Parce que dans le textile, nous avons l'habitude de recevoir les donneurs d'ordre. Maintenant, ils rechignent à venir en Tunisie. Et même s'ils viennent, ils rentrent dans la journée. Nous, on souhaiterait qu'ils viennent, ils restent une semaine et qu'ils puissent discuter calmement, faire des visites d'usines, passer des commandes et donc redonner de l'activité aux entreprises, ce qui va créer automatiquement des emplois.
Monsieur Loumi, dans un pays comme l'Égypte, qui a aussi une menace sécuritaire extrêmement prononcée, il y a des gros contrats, il y a des foires commerciales qui permettent de redonner de l'emploi, même si là aussi, dans ce pays aussi, il y a des difficultés. Mais l'économie tunisienne est beaucoup plus atone.
Moi, je vais plus loin que l'Égypte. Je prends des pays hyper dangereux, le Mexique, par exemple, le Honduras. Ils reçoivent des investissements en masse, hein. Le Mexique est un grand pays, l'Égypte est un très grand pays, avec déjà un grand marché local. Nous sommes un petit pays avec de petits moyens, et notre marché s'est rétracté avec cette crise touristique, et il y a une baisse de commandes. Donc, moi je dis que ce prix Nobel est une opportunité pour nous pour redorer notre image à l'international. Malheureusement, cette image a été impactée très négativement par l'attentat de Sousse. Et l'attentat de Sousse, c'est pas seulement l'attentat de Sousse, c'est un peu le manque d'efficacité des forces de l'ordre. Et ça, je le dis, sous ma responsabilité, pendant 20 minutes, le terroriste a exécuté ce qu'il devait faire sans qu'il y ait intervention de l'ordre. Donc, il y a eu quelque part une perte de confiance dans le système sécuritaire tunisien. Mais maintenant, le gouvernement est en train de réagir de manière extrêmement efficace et la sécurité se rétablit de manière visible et très rapide. Également, la sécurité dans les bâtiments publics, dans les hôtels, dans les entreprises. Et donc, il y a un grand travail avec le soutien de nos amis et des pays étrangers, notamment la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui nous soutiennent pour renforcer la sécurité et donc pour rassurer nos partenaires étrangers, qu'ils soient touristes ou investisseurs.
J'ajoute peut-être pour les jeunes, pour le problème du chômage. Naturellement, c'est un problème, à mon avis, aussi le modèle économique. Avant, le gouvernement, il y a des entreprises publiques qui embauchent plusieurs jeunes, mais maintenant, les gouvernements ont cédé de quelques entreprises publiques. Ça se répercute sur le chômage, naturellement.
Et il y a démarrage de négociations pour un accord de libre-échange entre l'Europe et la Tunisie. Vous pensez que ça pourra aider qu'une sorte de libéralisation de l'économie tunisienne peut-être pourrait... Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un sujet vraiment très 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 épineux qu'on doit le voir calmement pour voir les côtés positifs et les côtés négatifs aussi, surtout l'agriculture.
Je voudrais intervenir sur ce côté-là.
Oui,
je voudrais intervenir sur ce côté-là parce que c'est un côté qui touche directement l'entreprise. Moi, je pense que l'ALECA, donc l'accord de libre-échange complet et avancé, est une opportunité très importante pour la Tunisie parce qu'il nous permet de nous aligner sur les standards internationaux et de nous positionner sur le plan international. Ça, c'est un point très important. Par contre, il y a des risques importants pour le secteur de l'agriculture et pour le secteur des services. Donc, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle la mise à niveau de ces secteurs-là. Avant d'ouvrir et de le mettre en concurrence avec des entreprises, avec des organisations beaucoup plus efficaces et qui ont même des subventions de leur pays, il faut absolument remettre à niveau. Ceci a été fait pour l'industrie, avec succès. L'industrie a été mise à niveau et aujourd'hui, la Tunisie est le premier pays exportateur de produits industriels du sud de la Méditerranée vers l'Union européenne. Donc ça, c'est une expérience réussie au niveau industriel.
Charlotte Bozonnet, Le Monde.
Vous parlez des questions sécuritaires. Est-ce que vous estimez que le soutien de la France et de l'Europe est suffisant aujourd'hui pour la Tunisie?
Non. Je le dis clairement que nous avons espéré depuis longtemps que la France, l'Allemagne, les grands pays européens, les grandes démocraties européennes viennent en soutien à l'armée tunisienne, aux forces de sécurité d'une manière plus substantielle, plus conséquente. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de soutien, mais c'est un soutien insuffisant. Lorsque nous voyons sur nos frontières, par exemple avec l'Algérie ou avec la Libye, nous sommes en train de creuser des tranchées tout le long de la frontière. Nous avons besoin
besoin d'un système électronique de surveillance efficace pour compléter. Bien sûr, nous espérons. Nous avons besoin d'hélicoptères, nous avons besoin de matériel de pointe pour lutter, et surtout du matériel électronique pour lutter. Nous l'attendons, ce matériel. Ça a été promis à plusieurs reprises. On l'a entendu sur les radios et les télévisions, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que nous disons que pour que la démocratie qui vient d'être primée, la démocratie tunisienne qui vient d'être primée, puisse continuer, puisse prospérer et puisse donner l'exemple pour les pays voisins, il faut que nous soyons aidés pour que le terrorisme n'ait pas le dernier mot. Parce que c'est ce modèle démocratique qui est visé. Les terroristes, vous comprenez bien, vous le savez, tout le monde le sait, c'est un autre modèle de pensée. C'est un modèle totalement contraire à celui que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Donc les pays démocratiques sont appelés, bien sûr, à soutenir cette démocratie naissante. D'autant plus que, sur le plan, comme le disaient des amis tout à l'heure, sur le plan économique, il y a beaucoup de choses à faire. Le terrorisme influe largement sur notre situation économique et sociale. Et bien sûr, les gens, surtout les jeunes, commencent à désespérer de la démocratie. Parce qu'ils ne voient pas les dividendes.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, Monia El Abed, encore une fois, un envers de la médaille? C'est-à-dire que si on met l'accent à ce point-là sur le sécuritaire, le tout sécuritaire, on ne risque pas d'arriver à d'autres types de dérives liberticides?
Oui, tout à fait. Je pense aussi que c'est un problème d'équilibre aussi. Nous vivons une crise sécuritaire, c'est certain. Personne ne peut le nier. Nous vivons aussi une crise sociale. Et une crise économique aiguë. Donc, s'il y a eu révolution, c'est parce qu'il y a eu chômage. Il ne faut pas oublier aussi le processus qui a mené au 14 janvier. Il y a eu le procès de Gafsa de 2008, justement, quand on parle de la jeunesse tunisienne, cette jeunesse qui était malmenée, c'est une jeunesse qui est déchirée, donc il y a de l'imbrigation, il y a aussi ce projet intégriste international qui a joué un rôle très très important au niveau de notre jeunesse, et c'est ça aussi le paradoxe, parce que le paradoxe de la jeunesse tunisienne aussi, c'est que ces jeunes-là ont été présents le 14 janvier, ces jeunes-là sont toujours présents, ils sont en train de mener leur lutte à leur manière. Donc c'est à nous aussi aujourd'hui d'avoir une bonne écoute et d'avoir aussi une vision claire sur la situation d'avenir. Ce prix-là a été pour nous quelque chose de une consécration internationale, mais on doit aussi doubler d'efforts. Nous devons doubler d'efforts par rapport à la société civile et surtout par rapport au pouvoir politique en place. Donc notre rôle à nous, c'est de faire cette pression par rapport à nos dirigeants, d'avoir une vision globale, d'avoir une clairvoyance sur le plan social, économique et sécuritaire. Je crois que c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas favoriser le sécuritaire par rapport à l'économique et par rapport au social, c'est un tout. Donc le pays est en construction. C'est très facile de détruire, mais c'est très difficile de construire. Nous sommes dans une transition. 3 ans, on peut dire que pour nous, c'était long.
Vous pensez que les choses sont la progression tout de même est irréversible, qu'on ne risque pas un retour à l'ordre ancien par moment, une volonté de tout surveiller? On parle d'une remontée de ce qu'on appelle l'état profond, la surveillance,
les écoutes,
les indiques dans la rue, ces choses-là. C'est fini?
Et nous sommes vigilants, nous allons le rester. Moi, je suis de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme. Nous avons toujours veillé à ce que la lutte contre le terrorisme, par exemple, se fasse dans le cadre du respect absolu des règles des droits humains. C'est pour ça que la Constitution tunisienne est venue, heureusement, pour consacrer les droits et libertés. C'est pour ça que la société civile, pas seulement la Ligue, toute la société civile, veille actuellement, par exemple, à ce que la loi antiterroriste qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale ne soit pas utilisée d'une manière liberticide. C'est pour ça que la vigilance est toujours de mise.
Alors, autre question peut-être aux partenaires sociaux, membres donc de ce dialogue national. On dit que parmi les choses qui n'ont pas changé, qui même ont empiré, les observatoires le montrent, c'est la corruption qui reste endémique, qui reste extrêmement forte et qui pénalise au fond la confiance des Tunisiens dans leur système politique et économique. Pourquoi est-ce que ça reste aussi fort ?
Je pense que c'est une réalité, et c'est une réalité aussi dans des pays du sud de la Méditerranée. Elle existe, elle est profondément ancrée. Il y a peut-être un problème de pouvoir d'achat, un problème de vouloir vivre mieux et vivre au-dessus de ses moyens. Et malheureusement, la conséquence, c'est cette corruption. Mais il faut quand même une mobilisation nationale, sérieuse et rigoureuse pour lutter contre cette corruption qui a plusieurs formes. Il y a la petite corruption et puis il y a aussi la grande corruption liée au marché public et au marché de toutes sortes. Donc là, il y a un travail. C'est un phénomène qui existe dans le monde entier, mais qui malheureusement est très présent dans nos pays.
Et qui effectivement, peut-être le prix Nobel, ça nous motive davantage pour mieux être vigilant pour ces phénomènes, entre autres la corruption.
Et par exemple, le projet de loi sur la réconciliation économique, oui, qui prévoit une amnistie pour les hommes d'affaires qui avaient été coupables de corruption sous Ben Ali, c'est quelque chose qui peut améliorer la situation économique du pays, ou est-ce que c'est pas un signal d'impunité ?
Je pense que ce projet de loi a été manipulé pour dire qu'il a été fait dans le but de faire échapper certains responsables de corruption, dont des hommes d'affaires, de la sanction. Nous, en tant que représentants du patronat, nous disons que personne ne doit échapper aux sanctions. Mmh. La seule chose qui est intéressante dans ce projet de loi, c'est d'accélérer la résolution des dossiers liés à la corruption. Parce que depuis la Révolution, on parle de ces problématiques de corruption, de chefs d'entreprise interdits de voyage, et finalement, rien n'est tranché. Et vous avez des entreprises, des activités économiques qui sont bloquées parce que la décision n'a pas été prise. Donc tout ce qui peut accélérer les prises de décision sans échapper à la sanction. Donc que s'il y a malversation, s'il y a corruption, s'il y a problématique à caractère économique et financier, ça doit être traité de manière transparente, efficace. Et la question aussi, c'est que la loi de la justice transitionnelle met dans le même panier tout ce qui est dossier à caractère économique avec tout ce qui est problématiques liées aux droits de l'homme, à la torture, au dépassement, et à tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme. Nous pensons que ce sont deux choses séparées. Donc les dossiers économiques, c'est une chose, les droits de l'homme, la torture, toutes ces questions-là, ça doit être traité à part.
Charles Bozonnet. Je voudrais dire un petit mot là-dessus.
Allez-y.
Parce que nous avons des...
Notamment sur la torture, vous êtes membre de l'association de lutte, enfin, contre la torture.
Oui, je suis membre de l'exécutif de l'OMCT, l'organisation mondiale.
Or, elle continue dans votre pays, la torture.
Oui, justement, la torture continue. Et c'est pour ça que nous avons toujours sonné le signal d'alarme. Pour dire que l'impunité dont jouissent les tortionnaires permet que ce phénomène continue. Nous avons instauré en Tunisie une loi pour un mécanisme national de prévention de la torture, mais le mécanisme lui-même n'a pas été installé 2 années après le vote de la loi. Mais je voudrais revenir en une seule phrase sur la loi de la réconciliation économique. Moi, je crois que ça donne un signal fort à la corruption. Pourquoi ? Parce que, à tort ou à raison, mais je crois à raison, les gens ont compris que cette loi veut amnistier les corrompus, veut amnistier ceux qui ont mis la main dans le sac, comme on dit, pour puiser dans les fonds publics, etc. Donc, cette loi, elle doit être retirée, c'est la demande pratiquement de toute la société civile, des partis politiques, les grands partis politiques, des organisations nationales, comme le GTT,
oui.
Tout le monde demande à ce que cette loi soit retirée. Ouais. Au moins qu'elle soit rediscutée, redéfinie, modifiée sur un grand nombre de questions.
Je voudrais juste rappeler une chose, c'est par rapport à tout ce qui touche à la corruption. C'est très important parce que un pays ne peut pas avancer vers la transparence et vers la démocratie sans qu'il y ait réellement des mécanismes de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la Tunisie vit un vrai chantier des institutions, la mise en place des institutions démocratiques, donc le problème de la Cour constitutionnelle aujourd'hui qui est en débat devant l'Assemblée du peuple. Il y a aussi la question de le Conseil supérieur de la magistrature. On a omis aussi de parler des magistrats et de l'indépendance de la magistrature. Un pays qui avance vers le progrès, vers la transparence, vers surtout la bonne gouvernance, il doit avoir une magistrature indépendante, neutre, justement pour juger de la corruption.
À propos du passé, revenons sur l'autre aspect politique. Chute de Ben Ali il y a 4 ans. Ben Ali est condamné. Il est réfugié actuellement en Arabie Saoudite. Vous demandez, je m'adresse aux deux avocats, vous demandez qu'il soit jugé dans ce pays, qu'il puisse se défendre bien sûr, mais qu'il réponde de ses crimes.
Bien sûr, nous avons toujours... J'ai demandé, j'étais président de la Ligue au moment où il a été jugé la première fois. Il a été jugé à 35 ans à l'époque, c'était en septembre 2011. À ce que Ben Ali puisse revenir, être jugé devant la justice tunisienne indépendante et qu'il lui soit accordé toutes les garanties d'un procès équitable.
Mais il ne sera jamais extradé.
Justement, c'est parce que, moi je le dis, le gouvernement tunisien ne fait pas grand-chose pour qu'il le soit. On ne demande pas aux Saoudiens, on n'exige pas que Ben Ali soit extradé pour qu'il soit jugé dans son pays devant une justice que nous voulons indépendante pour Ben Ali ou pour tout le monde.
Et le Nobel peut vous aider à être entendu par l'Arabie Saoudite ?
Ça m'étonnerait parce que malheureusement pour nos amis saoudiens, le prix Nobel ne vaut pas grand-chose. Lorsque je vois qu'un jeune saoudien de 17 ans est condamné à mort, il risque d'être exécuté d'un moment à l'autre. Je me dis que le prix Nobel pour la démocratie, pour la paix, ça ne vaut pas grand-chose pour ces gens-là. D'ailleurs, de votre antenne, je voudrais appeler tous les démocrates au monde, y compris en France, de dire aux Saoudiens de gracier immédiatement ce jeune de 17 ans.
On entend votre appel.
On parlait de la corruption de haut niveau, de très haut niveau, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle l'économie souterraine. Et le phénomène est d'une telle ampleur qu'on parle de 50% de l'économie qui se déroule donc en parallèle, et donc il ne rentre pas d'imposition, pas de taxes, etc. Mais que ferait-on pour les gens dont qu'on priverait de ces ressources ? Est-ce que le pays est en mesure de remplir ses objectifs de diminution de l'économie souterraine ?
C'est un grave problème. L'économie informelle et l'économie parallèle est un très grand problème parce que il met en difficulté le secteur organisé parce que ça crée une concurrence déloyale. Hein. Il ne paie pas les taxes, il ne paie pas les impôts, il ne paie pas les droits de douane. Donc automatiquement, ça crée une concurrence très déloyale et met encore plus en difficulté les entreprises et les investissements et l'emploi, etc. Il y a deux aspects dans l'économie informelle. Il y a la contrebande organisée, avec de grands moyens. Et ça, il faut les combattre avec les moyens sécuritaires, donc l'armée, la police, la garde nationale, etc. Et il y a le commerce informel courant. Celui qui a une petite une brouette, où il a... Boisizi, c'était ça, hein, c'était de l'économie informelle. Donc cela, il faut les aider à intégrer le secteur organisé. Ah oui, donc en facilitant un petit peu les procédures, parce que souvent, on va dans l'informel parce que l'administration est très compliquée, est très tatillonne, et il faut 50 autorisations pour organiser son activité.
Alors nous arrivons presque au terme de cette émission. Nous sommes toujours à Tunis, au musée du Bardo, à l'occasion de l'attribution aux associations que vous représentez, aux institutions que vous représentez de ce Nobel. Au fait, qui va aller chercher le Nobel de la paix ? Vous êtes déjà mis d'accord ? Vous savez qui va aller le chercher, non ? Tous les cadres ?
On va se réunir, les quatre.
Les associations vont certainement en discuter.
Voilà. Ça va être un point important également de votre accord ?
Non, ça
ne va pas briser votre harmonie ?
Non, pas du tout.
Certainement pas.
Certainement.
Et nous irons les quatre.
Les quatre
seront là, ouais. Et le côté pratique sera organisé en concertation.
En concertation, naturellement.
Et l'argent, vous allez en faire quoi ? L'argent du prix, vous allez en faire quoi ?
on pense
800 moi, je pense aux, c'était notre question. Aux œuvres sociales. Moi, je pense aux œuvres sociales.
La dernière question à laquelle nous avons pensé.
Bon, ce qui est le plus important, c'est l'image, justement, la confiance que ça redonne.
La Tunisie qui se rehaussée de ce prix et que nous voulons fructifier de par le monde. Pour l'argent, vous savez, nous avons beaucoup de choses à faire avec l'argent. Ça ne va pas être difficile de le dépenser.
Je crois qu'il n'est jamais arrivé.
Le plus important, je pense, que c'est ce message d'espoir pour toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens pour ce prix Nobel de la paix. C'est pas peu, mais c'est en fait, c'est pour doubler nos efforts pour la construction de la Tunisie, une Tunisie que nous voulons démocratique, libre et bien sûr pour la jeunesse tunisienne et surtout pour en finir, je ne peux pas ne pas le dire, pour la femme tunisienne qui a été présente, qui est toujours présente et qui a contribué justement à un dialogue efficace et ce dialogue que nous représentons aujourd'hui, c'est